Bonjour les amis, on va parler d'un sujet qui fâche, qui surprend, qui est étonnant, ça s'appelle les femmes perverses narcissiques. Bonjour Christine Calonne.
Bonjour.
Alors vous venez de Liège, jusque-là c'est pas grave, hein, on accepte aussi les Liégeois ici à Bruxelles, hein, puisqu'on a une radio bruxelloise 100% Europe. Vous êtes psychologue clinicienne de l'Université de Liège en Belgique et vous exercez comme psychothérapeute depuis plus de 30 ans. Mmh. Qu'est-ce qui vous a pris de vous occuper des femmes perverses? On a l'impression que c'est plutôt que les hommes, mais il y a des femmes aussi. Ouais, je peux en attester parce que voilà, je suis. Oui. Voilà, on pourrait raconter mon histoire, mais ce n'est pas le but. On va raconter la vôtre. C'est un livre qui a 100 questions et a 100 réponses.
Eh bien, on parle en général de la perversion narcissique comme si c'était l'apanage des hommes. Et j'ai voulu ici démontrer que ça pouvait être aussi présent chez des femmes qui n'ont plus leur côté féminin, puisque le pervers narcissique a comme caractéristique d'être insensible, sans empathie et refusant toute forme de vulnérabilité, ce qui est la caractéristique du féminin.
Voilà, je rappelle que le pervers narcissique, ça fait quoi? Ça vous incombe dans un espèce de toile d'araignée. On vit quelques mois absolument idylliques et puis à un moment, la toile d'araignée commence à se couper. On se dit, tiens, on ne tient plus qu'un fil et on ne voit plus ses amis et on commence à perdre confiance. C'est un peu ça les signes.
Donc il y a l'idéalisation des premiers temps qui est suivie d'une mise sous emprise et d'un isolement progressif pour évidemment faire perdre confiance à la victime, confiance en soi, faire perdre l'estime de soi et ainsi détruire psychologiquement la victime.
Et vous vous sentez coupable alors que vous êtes victime, c'est ça un peu?
Absolument.
C'est quoi le premier signe quand une personne perverse, hein, quel est le premier signe en disant « oula, cassos », parce que la seule chose, on en parlera tout à l'heure, mais il n'y a pas beaucoup de solutions, mais quel est le premier signe évident?
Le premier signe évident, c'est une attaque narcissique, c'est-à-dire dévalorisation. Une dévalorisation qui se traduit par une phrase assassine. Si quelqu'un vous dit une phrase assassine, là, c'est vraiment un signal d'alarme.
Seul à seul ou bien en public, par exemple?
Alors, seul à seul, c'est entre quatre yeux. Hein, donc, oui. À la différence d'autres manipulateurs, le pervers narcissique donne vraiment une apparence parfaite en public, très contrôlé, contrôlant. Et donc, il n'est jamais... pointé du doigt, on ne peut pas le pointer du doigt.
Parce que ce sont des personnes séduisantes en plus en société.
Donc oui, très, très séduisant, charmant en société et en privé. Par contre, là, c'est vraiment de la violence psychologique au quotidien. On peut parler de harcèlement moral de la part d'un homme ou d'une femme perverse narcissique.
Oui, parce qu'on parle beaucoup de féminicide, mais on parle beaucoup de problèmes de violence physique, mais la psychologique est plus perverse et plus dangereuse.
Hein. Voilà, donc elle pousse, la violence psychologique pousse au suicide. Hein. Il y a vraiment un nombre important de victimes de femmes ou d'hommes perverses narcissiques qui se suicident. Hein. Donc ça peut être aussi un suicide à petit feu, plonger dans l'alcoolisme ou se détruire à force de trop travailler pour compenser ce qu'on vit dans le privé, enfin toute forme de suicide à petit feu.
En fait, il n'y a pas de solution quand on tombe dans les pièces d'un pervers ou d'une perverse. En fait, la seule solution, c'est de partir.
Tout à fait. Parce que le ou la perverse narcissique est dans le déni. Donc, il y a une incapacité à se remettre en question, à prendre ses responsabilités dans la relation. C'est toujours la victime qui est la coupable. Et donc, il est inutile d'essayer de le comprendre, d'avoir de l'empathie pour lui ou pour elle.
Voilà, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prévient la victime ou la victime suivante? Comment est-ce qu'on fait en fait?
Alors ça c'est inutile parce que évidemment quand on tombe sous la coupe d'un ou d'une perverse narcissique, on est séduit, on idéalise l'agresseur, donc c'est impossible de convaincre une personne qui tombe sous la coupe d'un ou d'une perverse narcissique, elle ne voudra rien entendre, elle va au contraire croire que c'est vous le ou la perverse narcissique.
Voilà, la justice ne reconnaît pas fatalement non plus puisque non. Ce n'est pas, est-ce que c'est considéré comme une maladie? C'est une pathologie, c'est quoi?
Le problème, oui, c'est une pathologie, mais malheureusement la justice ne tient pas compte de la dimension psychologique et comme les pervers narcissiques ils détruisent sans laisser de traces, la victime ne sait pas prouver qu'elle est victime. Il n'y a pas d'email prouvant le harcèlement, il n'y a pas de traces de coups, il n'y a rien. Donc en justice, on ne peut pas se défendre.
Ça fait peur, hein. Je crois que chez les hommes, ça représente 3 à 5 %, c'est ça?
Alors ça, c'est ce que disent les livres, mais dans la réalité, il y en a beaucoup plus. Hein. Donc le psychiatre Dominique Barbier, qui est expert au tribunal à Nîmes, a écrit « La fabrique de l'homme pervers ». Il dit que c'est entre 20 et 30 % des Français.
Donc ça veut dire 30... Les Français, ça on comprend. Mais en Belgique, il y en a moins, donc on rigole. Mais dans Zirmamois, c'est énorme. C'est une personne sur 3?
Oui.
Waouh. Et donc, ça veut dire que c'est tous des gens qui ont déjà un peu de pouvoir ou qui l'ont acquis, ces hommes puissants, on pense aux femmes et aux hommes qui dirigent.
Oui, toute forme de pouvoir. Hein, donc, que ce soit dans... Il n'y a pas que la vie politique, il y a la vie économique, les institutions, tout ce qui a rapport avec l'enseignement, avec les formations.
Les milieux hospitaliers, par exemple.
Les milieux hospitaliers, voilà. Toute forme de pouvoir est intéressante pour un ou une perverse narcissique, puisque ça lui permet d'avoir un ascendant sur l'autre par lequel détruire l'esprit et le corps de la victime. Hein.
Arrive-t-il que de pervers ou de perverses narcissiques arrivent chez vous en disant « je sens que je suis un pervers ou une perverse, est-ce que vous pouvez m'aider ?»
Il y en a qui viennent sous la pression du ou de la partenaire, parce que le partenaire menace de quitter les lieux. Et s'il n'a pas de proie sous la main, alors là, il va essayer de récupérer sa proie.
Oui, parce que la proie, évidemment, quand la proie s'en va, c'est comme un chat avec sa souris.
Donc, ça.
Donc, qu'est-ce que vous faites avec ces gens qui viennent nous dire je suis. Ils vont rentrer dans la séduction avec vous aussi, évidemment.
Bien sûr.
Hein, tout faire pour qu'ils nous montrent que c'est l'autre qui est fautif.
C'est d'être suffisamment empathique, mais en même temps suffisamment cadrant que pour les maintenir dans un lien thérapeutique, et c'est très difficile.
Dites-moi, mais c'est Netflix en live. 30% des gens en France qui sont pervers narcissiques, c'est quand même terrible. Mmh. Quand on était victime, j'étais le cas. Voilà. Et comment est-ce qu'on se reconstruit après ça? Comment est-ce qu'on arrive à justement retrouver, il faut retrouver de la confiance en soi?
La première chose, c'est de couper tous les liens. Donc en fait, ne bloquer le numéro de téléphone, toute forme de contact avec la perverse narcissique, parce que elle va essayer de récupérer de l'emprise si elle sent qu'il y a encore quelque chose à détruire et à exploiter. Donc une fois qu'on a coupé vraiment tous les liens, c'est alors de pouvoir trouver d'autres liens plus bienveillants, plus sécures. Et donc à travers les liens sociaux, on peut se reconstruire par le regard bienveillant de l'autre, l'empathie, l'amour, la reconnaissance positive de l'autre, on peut se reconstruire. Puis trouver tout ce qui donne du sens à sa vie, tout ce qui permet de retrouver confiance en soi. Et donc, c'est un chemin de reconstruction en identifiant ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne de la valeur à nos propres yeux.
J'imagine, parce que pas mal, on est quand même champion du monde du divorce, c'est pratiquement à Bruxelles. Donc, dans les familles recomposées, c'est parfois des situations extrêmement compliquées.
Hein. C'est sûr.
Voilà, puisque évidemment, ce sont parfois même les enfants qui deviennent des pervers ou des perverses narcissiques et qui font tout pour détruire le couple pourtant bien heureux des parents recomposés.
Oui, parce que c'est transgénérationnel. Donc, le parent pervers narcissique, il transmet ça comme héritage à un de ses enfants. Hein, c'est le successeur ou la successrice.
Est-ce que ça a toujours existé, ça, les pervers, les perverses narcissiques, ou bien c'est le monde actuel qui fait que c'est plus développé ou c'est plus reconnu?
Mais disons que ça a toujours existé, mais je crois que le monde aujourd'hui favorise la prédation. Et si on doit définir en un mot le pervers narcissique, c'est un prédateur. Hein, c'est vraiment quelqu'un...
Donc tous les réseaux sociaux, c'est vraiment des outils extraordinaires.
Ah, oui.
Là, on le voit beaucoup avec beaucoup de jeunes, beaucoup de suicides auprès des jeunes. Mm. Hein, et beaucoup de suicides qu'on camoufle en mort naturelle. Donc, mais quelles sont les solutions d'après vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Admettons que vous soyez, et je le souhaite puisque le ministre actuel ne nous plaît pas beaucoup, vous que soyez la nouvelle ministre de la Santé, qu'est-ce que vous proposeriez?
Mais je pense que c'est dans la petite enfance qu'il s'agit de modifier l'éducation donnée aux enfants, par exemple, accorder beaucoup plus de place à l'empathie, éduquer l'enfant à être ouvert à ses émotions, qu'il ne faut pas être dur et invulnérable comme la société d'aujourd'hui nous l'inculque. Au contraire, que l'humanité, être humain, être dans la bienveillance, être sensible, c'est une qualité, c'est ce qui fait notre humanité et c'est à cultiver.
Voilà, et dans les écoles aussi, mais
oui.
On sait qu'on a parlé, les familles sont pas terribles pour l'instant en Belgique, parce que beaucoup de familles déconstruites, et puis l'école, dont on se plaint aussi, donc énergiquement. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels on remarque, je pense aux pays scandinaves, où il y a moins de...
Oui, exactement, hein. Par exemple au Danemark, il y a des cours dédié à l'éducation à l'empathie. Donc ça, c'est extraordinaire. Mmh. C'est quand même des gens qui sont beaucoup plus ouverts au lien social. Et donc, automatiquement, eh bien, ça décourage la perversion narcissique. Hein.
Ben vive le Danemark, j'en connais une qui sera contente. Je embrasse Henriette, qui est ma copine danoise. Merci, je rappelle que c'est un livre édition aux éditions Ellipse. Ça se trouve dans toutes les bonnes librairies, j'imagine.
Oui, où il y a un rayon psychologie.
Voilà, très bien. Quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait des gens qui ont lu votre livre et qui vous ont écrit ou dit quelque chose? Qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir?
Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que grâce à ce livre, ils ont pu identifier quelqu'un qui était ou quelqu'une qui était perverse narcissique et s'en protéger. Et ça, c'est vraiment l'essentiel, c'est de pouvoir repérer à qui on a affaire pour pouvoir se libérer de l'emprise. C'est vraiment le repérage des critères de la perversion narcissique qui aide à se libérer.
Une personne sur trois, c'est que dans chaque famille, il y a un pervers narcissique. Attends, on va faire une émission. Il y a une émission qui s'appelle Les Traites. Maintenant, on va identifier les pervers narcissiques. Pourquoi pas, hein. Merci beaucoup de votre visite. Je rappelle Les femmes perverses narcissiques aux éditions Ellipse, sans question et avec sans réponse surtout. Merci beaucoup, Christine Calonne.